Chapitre 2, je vous avais fait l'introduction. Et maintenant, on va passer à la section première, qui est les pères et la crise arienne. Je m'aperçois que je n'ai pas repris de plan.
Encore un cours d'extrême droite.
C'est ça. On va donner une leçon d'orthographe au docteur.
C'est vrai.
Dis donc à personne
déjà ça,
rien.
Ça fait des...
Ah bon?
Alors, la mise en place, du nouveau système. Donc le nouveau système, vous savez, c'est donc la suspension des persécutions, puis les deux phases de la crise arienne. Alors, non seulement la suspension des persécutions, mais aussi progressivement le christianisme comme religion d'État. Et on va voir comment les deux phases de la crise arienne s'articulent avec finalement un empire qui ne veut surtout pas prendre de décision face à la controverse religieuse pour éviter de casser disons que la cassure de la chrétienté se communique à l'Empire. Alors on verra quelques figures d'évêques qui ont livré le combat dogmatique, à la fois contre les hérésiarques, enfin, donc Arius essentiellement, et contre la politique impériale, dont l'orthodoxie n'était pas le souci premier. Le souci premier des empereurs, c'était surtout qu'il n'y ait pas de troubles dans l'Empire. Alors, premier paragraphe, le tournant constantinien. Il faut quand même revenir à cette histoire. Au début du IVe siècle, après finalement la persécution la plus violente et la plus longue, celle celle de Dioclétien. Alors, grand A, l'histoire politique, et petit a, la continuation de l'Empire sacré. Alors, vous savez que l'idée d'Empire est unitaire, évidemment, mais pour des raisons pratiques, Dioclétien, qui était un grand empereur, avait scindé l'Empire en 285 en deux moitiés, selon un trait vertical qui passe en gros entre la Croatie et la Serbie, et puis entre la Libye et la Cyrénaïque. Et puis même après en deux autres moitiés, chaque moitié étant divisée encore en deux, avec ainsi deux Augustes et deux Césars, les Césars étant soumis aux Augustes, et donc quatre têtes pour gouverner. Si vous êtes allé à Venise, vous avez au pied du palais la reproduction des quatre hiérarques en porphyre. Donc l'empereur est le garant de l'unité des peuples à travers l'unité de l'administration, mais aussi à travers l'unité du culte. Ça déjà dans l'Empire romain, hein, c'est... L'unité de culte définit l'unité de l'Empire par-delà la diversité des peuples qui le composent. Puisque ce n'est pas la base ethnique qui fournit l'unité, ça peut être qu'autre chose. Et l'autre chose, c'est la fidélité à l'empereur divinisé. Et au IVe siècle, le christianisme va remplacer l'ancienne religion impériale. Et donc, avec la même, va rentrer dans sa forme, en somme, hein, c'est-à-dire comme religion assurant l'unité de l'Empire. Et vous voyez tout de suite la difficulté, c'est que le christianisme a déjà débordé les frontières de l'Empire et donc passera immédiatement comme tous les chrétiens passeront pour une cinquième colonne aux yeux des princes qui, souvent adversaires de Rome. Qui se trouvent de l'autre côté, notamment les Parthes, les Perses, parfois les Arméniens, etc. Alors, du coup, de Pontifex Maximus, d'ailleurs une charge, une dignité qui ne va pas tout de suite abandonner, l'empereur devient en même temps, alors, comme on, Eusèbe de Césarée le dit dans sa vie de Constantin, épiscopos koinos, hein, donc l'évêque commun, ou l'épiscopos ton ectos, donc l'évêque de l'extérieur, quoi. C'est-à-dire celui qui est chargé de régler les affaires temporelles pour le bien des évêques, en un mot. Et le titre de Pontifex Maximus sera porté par l'empereur jusqu'à Théodose, donc il restera grand pontife. Et après, vous savez que le titre, donc vidé de sa signification païenne, passera au pape, hein, aux évêques de Rome. Et donc, ce qui va déterminer la politique religieuse de l'empereur et de l'empire, c'est l'unité du culte qui est la condition de l'unité de l'empire. Et voilà, alors, je crois que c'est, je cite Marou qui dit « C'est pourquoi les empereurs chrétiens se comportèrent aussi en chef de l'Église, convoquant des conciles, encourageant, approuvant ou désapprouvant leurs décisions, approuvant les choix d'évêques ou les destituant, allant jusqu'à définir la foi authentique et obligatoire après consultation de synodes ou de théologiens, jusqu'à ce que Théodose en fasse même une loi impériale. » 381. Donc l'idée impériale ne peut accepter qu'un seul culte officiel pour tout l'État. Et la nature de ce culte varie selon les circonstances et puis aussi le penchant de l'empereur ou de l'impératrice. Alors, en fonction, alors c'est, la position officielle variera d'une hérésie à l'autre, on peut dire, avec l'idée qu'il faut surtout éviter le maximum de troubles. Donc toujours trouver des voies de compromis, des compromis religieux pour que l'unité de culte demeure même de façade. Donc voilà un peu la politique impériale pendant toute cette phase de conflit aigu qui va avoir lieu entre, d'un côté, la grande Église, comme on dit, et de l'autre côté, l'hérésie, et essentiellement l'hérésie arienne, donc une hérésie qui nie la divinité du Christ, ou tout au moins son égalité avec le Père. C'est une sorte de renaissance de ce qu'on appelait le subordinationnisme ou le monarchianisme dans les premiers siècles. Alors, petit b, les empereurs et leur politique. Alors, vous allez voir qu'il n'y a pas aussi que la dimension religieuse. Alors, d'abord, Constantin. Alors, Constantin, il réunifie progressivement l'Empire en évinçant... violemment. En éliminant, disons, en liquidant Maxence, qui était le co-empereur de l'Occident, qui sera battu au pont Milvius, hein, comme chacun sait. Puis son allié de l'Orient, Licinius, qui avait fini par l'emporter sur l'horrible... j'ai oublié son nom, c'est pas Maximien, je ne sais plus. Non, l'autre co-empereur d'Orient qui avait été un persécuteur acharné qui avait continué à persécuter l'Église au-delà même de l'affaire de 313. Enfin, en tout cas, comme le dit Drobner, qui est un patrologue, dans cette perspective, la rébellion d'Arius, qui menaçait cette unité sacrée de l'Empire, ne l'en frappa que plus douloureusement, quand il fut obligé de reconnaître qu'il ne s'agissait pas d'une dispute philosophique entre écoles théologiques différentes, mais d'une scission de l'Église et donc d'une scission dans l'État, il décida d'intervenir lui-même pour régler le conflit. Donc, vous voyez, c'est toujours l'idée de sauvegarder l'unité politique. Alors, du coup, il convoque le premier concile œcuménique, hein, le concile de Nicée, qui 325, qui se trouve... à proximité de Constantinople. Et là, oui, on va proclamer que le Fils est de la même substance, nature, essence que le Père. Donc c'est un mot.
C'est homoousios, je vais vous montrer.
C'est consubstantiel.
Bon, je crée grâce des accents, mais que des esprits.
Oui.
Tout simplement parce que les accents, je n'ai pas voulu. Donc ça veut dire, voilà, en gros, ben justement, c'est un peu ambigu et c'est pour ça qu'il va y avoir ensuite un siècle de controverses. Alors, devant les troubles qui persistent, eh bien, Constantin va chercher la conciliation en exilant les extrémistes. Alors Arius, en 333, et Athanase, son adversaire acharné, en 335. Athanase, il serait exilé au moins 5 fois. Et ce qui lui importe avant tout, donc, c'est moins la vérité dogmatique que l'unité religieuse. Voilà. Alors, les fils de Constantin, parce que l'unité de l'Empire, ça va durer qu'un temps, et les fils de Constantin vont se disputer. Alors, Constantin II s'en tient en Occident à la règle définie au Concile de Nicée, tandis que son frère qui est à l'Orient va tenir, lui, l'arianisme modéré, voilà, qui avait plutôt cours en Orient. Et qu'il va chercher.
C'est quoi, arianisme modéré ?
Alors, c'est un arianisme où on ne dit pas que Jésus est juste un homme, mais il est un peu entre.
Surhomme.
Oui, surhomme ou second Dieu, voilà. Voilà. Donc, pardon, c'est pas Constantin II, c'est Constant, l'empereur d'Occident. Alors, Constant va mourir, opportunément, en 350. Constance va essayer d'imposer à la partie occidentale de l'Empire l'arianisme modéré qu'il professe au moment de la réunification de l'Empire en 353. Et il va persécuter... Alors, oui, ses deux frères. Il va persécuter Athanase d'Alexandrie, le patriarche d'Alexandrie, l'ennemi mortel de Arius. Hilaire de Poitiers, qui à l'occasion d'un exil qui avait découvert Athanase à l'occasion d'un exil d'Athanase en Occident, avant lui-même d'être exilé aussi en Orient. Oui, parce qu'on se débarrasse des gens. Ossius de Cordoue, qui était un des grands théologiens, un des évêques qui a présidé le concile, et l'évêque de Rome, Liber. Et de synode en synode, on arrivera à une interprétation faible de la formule de Nicée. Alors, du coup, de homoousios, donc il veut dire en gros, vous voyez, la ousia en grec, ça veut dire la substance en gros. Et alors, on va arriver à homoousios. C'est le fameux iota. Là, on dit, on s'est battu pour un iota. Parce que là, ça veut dire la même, et là, ça veut dire semblable. Alors, vous voyez, entre la même chose et une chose semblable, il y a une sorte de petit affaiblissement. Alors, on dira que Jésus... que le Christ est un peu semblable à la divinité. Il n'est pas. Et en latin, ça sera traduit par similitudo.
C'est
ça l'est pas. Oui, c'est ça. Mais il faudra du temps pour le reconnaître.
C'est une interprétation faible.
Oui, faible au sens affaibli de la position de Nicée. Oui. Alors c'est affaibli au sens de ça penche vers l'hérésie. Alors, la mort de Constance face aux Perses va rebattre les cartes, si on peut dire, parce que le successeur, c'est Julien, et Julien, lui, veut revenir à l'ancien culte. Alors, quelqu'un me disait là qu'au théâtre du Nord-Ouest, juste à côté, Jean-Luc Génère a fait lire une pièce là sur Julien, hein, je crois.
Oui. Sur l'apostasie.
Oui, oui, oui.
C'est une pièce qui n'a jamais été jouée.
Voilà.
Si elle était jouée intégralement, ça durerait 13 heures.
Ah, c'est pire que l'horreur solide.
Non, c'est très bien. On a eu la première partie qui durait 2h30, 3h. Et ils vont passer en 4 fois lecture. Mais c'est très. Il n'y a pas besoin de jeu, si vous voulez. Ça,
oui.
Le texte est très très bien, c'est très clair et c'est en petite séquence, donc c'est en dialogue. Ibsen.
Ah, c'est Ibsen, Ibsen, oui, oui, c'est vrai. Parce qu'il joue Ibsen toute l'année, je crois.
Oui, c'est ça, oui. C'est ça, oui. Ah oui, peut-être bien aussi. Oui, je crois que le règne de Julien a été plus court que la pièce, peut-être, parce qu'il a... Il a régné de 361 à 363.
C'est pas long, ça.
Mais il a le temps de faire des
dégâts. Oui, il n'a pas trop le temps de faire de dégâts, finalement. Et son successeur, Jovien, lui aussi, n'a pas régné très longtemps. Alors lui, c'était un catholique nicéen. Donc vous voyez, on est passé d'un proche de l'hérésie arienne à un païen, et on revient à un catholique. Et après, l'Empire est à nouveau coupé entre Valentinien et Valens. Vous voyez, il y a Constant et Constance, Valentinien et Valens. C'est pratique, ça permet de... Voilà. Et donc, on revient à la division confessionnelle de l'Empire. Valens, 364-378, va continuer de persécuter les tenants de... l'orthodoxie du Concile de Nicée, en particulier Saint Athanase en Égypte, et puis après les pères qu'on appelle cappadociens en Asie mineure, donc les grands, enfin j'ose pas dire les grands pères de l'Église, mais enfin, les pères grands de l'Église, qui sont Basile de Césarée, Grégoire de Nazianze, Grégoire de Nice.
C'est arien.
Comment?
Voilà, c'est arien.
Oui, il est arien en fait. C'est ça. Il impose la ligne, comme on dit, homéenne, comme ça, là, où le Christ est semblable seulement au Père. Alors que Valentinien, qui règne à l'ouest, en Occident, 364-375, reste nicéen. Mais un de ses fils, qui est Valentinien II, qui va régner sur la zone intérieure de l'Occident, va passer à l'arianisme. La zone intérieure, c'est autour de Milan, voyez. Et après, Ambroise sera obligé de... Bah, d'ailleurs, il sera élu archevêque de Milan pour régler le problème de la dévolution des biens, parce que l'Église était passée quasiment aux Ariens. Dans toute la zone, la Lombardie, la Vénétie, toutes ces zones-là.
C'est pour ça qu'il y a un baptistère des Ariens à Ravenne.
Oui, à Ravenne aussi. Toute cette zone au nord de l'Italie, et jusqu'en Illyrie, là, en Slovénie, tout ça, était passé aux Ariens, justement sous le règne de Valentinien II. D'où la résistance de saint Ambroise à Milan. Hein. Alors, il y a un usurpateur qui va remplacer Valentinien II, qui a l'avantage d'être catholique nicéen. Donc, tandis qu'en Orient, Théodose va succéder à Valens. Et lui aussi est nicéen. Donc, en fait, on va se retrouver avec... alors, vous voyez, quand même, ça dépend des personnages, hein, au gré de leur... avec toujours l'idée, néanmoins, de jamais, dans la zone qu'ils contrôlent, de totalement briser l'unité confessionnelle. Alors, Théodose va réunifier l'Empire. Il va commencer à régner en Orient en 379, puis en Occident en 388, jusqu'en 395. Alors Valens avait eu la bonne idée de se faire massacrer avec toute son armée à Andrinople, face aux Visigoths. Et donc Théodos, qui était originaire d'Espagne, venait d'une région qui avait été épargnée par la controverse. C'était la région où Ossius de Cordoue, justement, exerçait le primat. Et donc, c'était une zone qui était restée donc nicéenne.